Ça faisait un petit bout que je voulais parler de ce livre, Au chevet de la démocratie, Observations sur le démantèlement de l'État de droit. C'est paru aux éditions Somme toute. C'est le chroniqueur, professeur et surtout avocat constitutionnaliste Frédéric Bérard qui en est l'auteur. Bonjour Frédéric, bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup, Denis Martin. Bien aimable et bien aimable de comment je dirais, d'avoir relancé malgré mon indiscipline.
Ah ben non, mais c'est correct, hein? On peut pas être disponible tout le temps à la dernière minute comme ça, mais merci d'être là. Alors, il y a 12 ans, Frédéric, tu publiais « La fin de l'État de droit », un titre que tu trouvais à l'époque presque trop alarmiste. Alors aujourd'hui, le recueil retraçant plus d'une décennie de ce que tu as qualifié de dérive, la réalité a-t-elle dépassé tes craintes?
Ah oui, je dois dire honnêtement, oh là là, parce que si on se ramène au moment où on a publié La fin de l'État de droit, c'était 2014, si ma mémoire est bonne, mais bon, on préparait ça, je ne sais pas, 2013, évidemment, et il se passait des choses, bien sûr, puis, mais bon, comment je dirais, je voyais que ça s'en allait pas du bon côté, bien entendu, et je voulais alerter les gens, bien entendu, et l'éditrice, mon éditrice de l'époque qui est décédée depuis, et dont je salue la mémoire, Marie-Pierre Baraton, avait dit, bah, parce qu'on était pas prêt de trouver le titre, en fait, à vrai dire, là, ça finissait plus, ça faisait, je sais plus, quelques semaines, peut-être même mois, bref. Et elle m'appelle un bon matin, elle dit, ça y est, Frédéric, j'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Le titre. OK, vas-y. Alors, ce sera la fin de l'État de droit. Je dis, non, non, ça ne va pas être la fin de l'État de droit, Marie-Pierre, ça n'a pas de bon sens. Mais elle dit, mais pourquoi? Ben, je dis, parce que je vais passer pour une espèce de wobo là, qui essaie de faire peur aux gens. C'est pas sérieux. Je ne crois pas que c'est la fin de l'État de droit. Mais elle dit, c'est ce que tu annonces dans le livre. Je dis, ben, un petit peu, mais je veux dire, c'est pour conscientiser les gens, je crois pas fermement. Alors, l'entente aura été le compromis. Elle dit, ben, on va mettre un point d'interrogation et puis ça finit là. Puis elle m'a pratiquement raccroché la ligne au nez. Alors, comme c'était mon premier livre, ça a été ça. Et puis, bon, maintenant, est-ce que je réutiliserai ce titre aujourd'hui? Bien entendu que oui. Est-ce que je mettrai le point d'interrogation? Ben, ça, c'est pas si clair.
Oui, parce que j'ai l'impression que le livre écorche l'ensemble du spectre politique. Hein? Ça a commencé à ce moment-là avec Stephen Harper, jusqu'à Justin Trudeau. Le nouveau livre aussi passe par Jean Charest, François Legault. Pourquoi démontrer donc que cette érosion des libertés, parce que quand on parle de la fin de l'État de droit, c'est vraiment des libertés, c'est pas juste un camp là, qui est responsable de ça.
Ah non, mais ça, tu as raison de le dire. Puis moi, ça me fait toujours un peu rigoler quand les gens sur les médias sociaux ou ailleurs essaient de me cataloguer comme ah, c'est un libéral fédéral ou c'est un Québec solidaire ou c'est un ci ou c'est un ça. J'ai dit, vous m'avez jamais lu pour dire des affaires comme ça. Puis pour moi, c'est pas. Moi, je fais pas de la chronique, Denis Martin, je fais pas du commentaire. Parce qu'il y a un parti qui m'intéresse plus. Honnêtement, il ne m'intéresse pas les partis. Bien franchement, s'il m'intéressait, je me présenterais en politique, ce que je ne fais pas parce que je déteste l'esprit partisan. Ben, en fait, c'est bien correct s'il y en a qui veulent le faire, mais moi, ça ne s'accorde pas du tout avec ma personnalité et ce que je souhaite faire dans la vie. Ce qui fait que quand on est, je pense, neutre dans notre appréciation de ce qui se passe, en fait, peut-être pas neutre, mais au moins objectif. Oui, tous les partis ont cette nouvelle tendance, ont adopté cette nouvelle tendance-là, qui est très occidentale, hein, par ailleurs. Ça n'a rien à voir avec le Québec, ça n'a rien à voir même avec Ottawa. C'est une tendance occidentale qui s'est bien entendu accélérée, vitesse grand V, depuis 2016 avec Trump. Trump 2.0, on n'en parle même pas. Puis on peut même dire que le Québec est un petit havre relativement sympathique côté État de droit quand on regarde d'autres régimes, notamment en Europe. Mais bref, oui, donc tous les partis ont contribué en quelque sorte à cette débâcle, même si la débâcle est quand même relativement minimaliste ici, versus ailleurs.
Bon, alors, quand on parle de l'État de droit pour plusieurs personnes, c'est un terme peut-être qui n'est pas très compris. On parle de quoi exactement?
Ouais. Ben effectivement, il y a plusieurs, des fois, il y a certaines confusions conceptuelles, mais moi, j'aime bien dire que l'État de droit repose sur trois principes de base qui sont relativement simples, je crois. Le premier, c'est qu'il y a une seule loi pour tous. Alors, que tu sois premier ministre, que tu sois président ou pas président, si par exemple, tu as violé des femmes, ben, tu vas être condamné par la justice, puis tu vas te ramasser en prison. Hein. L'autre principe de base qui est très important aussi, c'est que toute la puissance publique, donc par exemple une action gouvernementale, une loi ou autre, ben, tient sa source dans la règle de droit. Donc par exemple, quand les policiers agissent de manière X, il faut que la loi le prévoie. Quand un premier ministre agit de manière Y, il faut que ce soit permis par une loi habilitante. Et quand la loi est adoptée, il faut qu'elle respecte la Constitution. Et la troisième condition d'un état de droit en santé, et celui-là en a reçu plein la gueule lui aussi, c'est l'importance du pouvoir judiciaire qui joue le rôle d'arbitre, qui vient punir, sanctionner les violations à l'état de droit, essentiellement. Et pourquoi je dis que celui-là en a plein la gueule? Regarde partout en Occident, plusieurs des politiciens qui font la promotion justement de ce qu'on appelle l'espèce de gouvernement des juges. Les juges sont méchants. Il faut que la démocratie, comme si la démocratie était une démocratie sans état de droit, pouvait s'exercer, puisse le faire donc sans juge. Bref. Voilà, je te dirais que c'est pas mal les trois conditions. Puis là-dessus, tu l'as dit tout à l'heure par la bande, bien sûr qu'il y a des droits fondamentaux à préserver, mais qui va les préserver, ces droits fondamentaux-là? Ben, il y en a qui disent, ben, c'est le peuple. Moi, je suis désolé, puis évidemment que je suis un démocrate, évidemment que j'aime bien le peuple, mais c'est pas au peuple, c'est pas à la majorité de décider des droits des minorités. On le voit bien là, actuellement, ce qui se passe aux États-Unis, la communauté LGBTQ+, en a absolument plein la gueule. Les personnes trans se font expulser de l'armée. On parle de faire passer des tests de testostérone. Je ne te parle même pas de la communauté noire. Je te parle même pas. Donc, bref, est-ce que les minorités peuvent être protégées par la majorité? Quand ça va bien, quand c'est calme, la réponse, c'est oui. Mais quand ça commence à se gâter, par exemple, quand il y a une guerre culturelle, comme en l'espèce actuellement aux États-Unis, bien entendu, partout en Occident aussi, ben là, ça devient compliqué parce que mathématiquement, c'est assez difficile pour une minorité de pouvoir avoir gain de cause au final si tout passe par une espèce de vote.
Frédéric, moi, je te suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux et je suis aussi ce que tu écris, tes commentaires, tes chroniques. Et mon Dieu, aujourd'hui, quand je pense à tes prises d'opposition, notamment sur la présomption d'innocence dans l'arrêt Jordan,
Oui.
sur la. Comment t'expliques que ça fait tant grincer des dents le fait que tu prennes des positions en faveur justement de la défense des droits des minorités ou des droits fondamentaux?
Ben, tu vois, c'est ça qui est un peu paradoxal, parce que si, ben pour moi, pense-y, on appelle ça des droits fondamentaux. Il y a deux mots dans droits fondamentaux. Il y a droit, habituellement, un droit, ben, c'est pas négociable. Puis il y a un droit qui est fondamental, ben, je pense qu'il est encore moins négociable. Donc, moi, quand je te dis qu'il y a un paradoxe, mais peut-être même une ironie, c'est que il n'y a rien de particulier à défendre des droits fondamentaux en temps normal, là. C'est un paradigme, c'est supposé, ben oui, on est pour ça, nous, les droits fondamentaux. Mais là, très clairement, on ne l'est plus tant que ça en faveur des droits fondamentaux, hein, qui sont attaqués de toutes parts. Là, je t'ai parlé des droits des minorités, mais on pourrait parler de la liberté de presse, on peut parler de la liberté académique, la liberté d'expression, ben, et ainsi de suite, d'autres droits à l'égalité aussi. Ce qui fait que si ça fait grincer, je pense, c'est parce que justement, par définition, je suis à contre-courant en disant, ben non, les droits des minorités méritent d'être protégés, méritent d'être défendus. Albert Camus disait, la démocratie n'est pas la loi de la majorité, mais bien la protection des minorités. Moi, j'essaie de rappeler un peu d'où est né le paradigme des droits fondamentaux. Puis il est né de où? Ben, il est né après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Ben, parce qu'il s'est passé des choses à ce moment-là. Puis on s'est dit, on ne veut plus tomber dans le même piège. Alors, si ça fait grincer que je défends les droits des minorités, eh ben, que ça grince. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Grincez tant que vous voulez. Et peut-être, je l'espère, que dans X temps, X années, décennies, va donc savoir. On va regarder ce qui s'est produit ces dernières années, puis on va se dire, mais c'était quoi cette folie-là, là? Pourquoi c'est quelle crampe au cerveau on a eue? Et les petits promoteurs de l'extrême droite, les petits promoteurs de faisons foirer l'État de droit, les petits promoteurs de la haine envers les minorités, qu'elles soient sexuelles, religieuses, raciales ou autres, peut-être que ces gens-là passeront éventuellement au banc, comme d'autres ont passé au banc dans les années 60.
Passeront du mauvais côté de l'histoire. J'aimerais terminer là-dessus. Est-ce qu'on peut être optimiste?
Écoute, j'ai une grande fille qui vient d'avoir 25 ans hier. Je peux pas répondre qu'on ne puisse pas être optimiste. Albert Camus encore, puis je finis avec ça, disait: Celui qui espère en la condition humaine est un fou, et celui qui désespère est un lâche. Eh bien, j'aime mieux être fou que lâche.
Oh, c'est une belle finale. J'ajoute rien. Frédéric Bérard, je rappelle que ce livre s'intitule Au chevet de la démocratie, observations sur le démantèlement de l'État de droit. C'est disponible en librairie. Je l'ai lu. J'étais en état de choc. C'est pour ça que je t'ai demandé une entrevue. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission aujourd'hui.
C'est vraiment gentil, bon show, puis bravo pour le travail que tu fais. On a besoin de voix dissidentes, de voix parallèles, plutôt que le gros mainstream qui avale parfois la réflexion critique.
Ben, j'accepte le compliment. Merci beaucoup.
Tu fais bien. Salut. Ciao, ciao.